Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 9 février 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedulia. Tout d'abord les titres. Le bilan des tremblements de terre en Turquie et en Syrie voisine dépasse ce jeudi les 16 000 morts. Au Niger, plusieurs dizaines de terroristes présumés neutralisés ou appréhendés sur divers fronts. Au Burkina Faso, au moins 8 morts, dont 2 employés burkinabés de MSF, dans 2 attaques de djihadistes présumés. Au Mali, 6 hauts responsables militaires de la junte relevés de leurs fonctions. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, étend à la Mauritanie l'offre de soutien de Moscou contre les djihadistes. Libye, un mécanisme de retrait des combattants étrangers adopté au Caire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Nous commençons par le Niger, où plusieurs dizaines de terroristes présumés ont été neutralisés ou appréhendés cette semaine sur les divers fronts où l'armée nationale mène le combat contre les groupes criminels. C'est ce que révèle le dernier bulletin des opérations des forces armées, publié ce mercredi. De Niamey, notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
C'est dans l'est du pays que la moisson a été bonne selon le bulletin. Suite à une opération spéciale à la frontière avec le Nigeria, des frappes aériennes ont permis de détruire un campement et une base vie terroriste. 36 présumés terroristes ont été appréhendés par les troupes au sol. À l'ouest, dans la zone des trois frontières, un accrochage entre un élément de l'opération Al-Mahaou et des terroristes a permis la neutralisation de 2 terroristes et la récupération de 2 armes et des munitions. Nia, une autre opération militaire dans cette même zone, a interpellé 2 suspects et détruit 8 motos. 2 trafiquants de carburant ont été appréhendés alors que 2 éléments des forces de défense et de sécurité ont été blessés suite au déclenchement d'un engin explosif improvisé au sud de la localité de Tamou. Les opérations Farouta Bouchia et Chara en cours dans le centre du pays, elles ont permis de libérer des otages des localités de Dandela et de Karaga d'une part et d'autre part de neutraliser 2 guetteurs terroristes. Enfin, au nord, selon toujours le bulletin, la riposte à une attaque d'un convoi public par des individus armés a permis d'appréhender 10 assaillants, de saisir 3 véhicules, une mitrailleuse de type M80 ainsi que des munitions et des appareils téléphoniques. Le bulletin ne mentionne toutefois pas l'attaque du 1er février dernier contre un campement de réfugiés maliens situé dans le département de Tilia, région de Tawa, qui a occasionné la mort de 9 personnes, dont 8 réfugiés maliens. 6 autres personnes sont portées disparues. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, au moins 8 personnes, dont 2 employés burkinabés de Médecins Sans Frontières, ont été tuées mercredi dans 2 attaques distinctes perpétrées par des djihadistes présumés. Médecins Sans Frontières a condamné avec la plus grande fermeté l'assassinat de ses employés dans la boucle du Mouhoun. MSF a qualifié l'assassinat de ses 2 employés de brutal et de délibéré et a décidé de suspendre ses activités médicales dans la région. Au Mali, 6 hauts responsables militaires maliens, dont le chef d'état-major de l'armée de terre et celui de la garde nationale, ont été relevés de leurs fonctions mercredi, selon un communiqué du Conseil des ministres qui n'en précise pas les raisons. Le directeur général de la gendarmerie nationale, celui de la sécurité militaire, du génie militaire et le directeur central des services de santé des armées ont également été remplacés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui s'est rendu mardi au Mali, a été reçu hier mercredi par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a offert son soutien à la Mauritanie dans la lutte contre le djihadisme, disant respecter la position du pays dans la guerre en Ukraine. Le point avec Nanit Talani.
Nous avons exprimé notre respect pour la politique constante de neutralité de la Mauritanie, a déclaré M. Lavrov, respectant la décision de Nouakchott, qui a voté en mars 2022 en faveur d'une résolution de l'ONU appelant la Russie à cesser ses opérations militaires en Ukraine. Mais cette neutralité n'empêche pas la Mauritanie de s'attaquer activement aux problèmes de la région, dont la menace terroriste dans la région sahélo-saharienne, a ajouté M. Lavrov. Sa visite en Mauritanie, pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, fait partie d'une offensive diplomatique plus large en Afrique. Mardi, il s'est rendu au Mali, où la Russie est devenue un important partenaire de la junte au pouvoir. Le chef de la diplomatie russe a promis d'aider les pays du Sahel et du Golfe de Guinée dans la lutte contre le djihadisme qui s'est propagé dans les pays du Sahel et menace le Golfe de Guinée plus au sud, même si la Mauritanie n'a pas connu d'attentat depuis 2011.
De hauts gradés de l'Est et de l'Ouest de la Libye ont approuvé hier au Caire, avec des responsables soudanais et nigériens, un mécanisme de coordination pour faire partir les mercenaires et combattants étrangers du pays miné par les divisions. La MONUL, mission d'appui des Nations Unies, a salué une étape importante vers l'instauration d'une paix durable en Libye. Aucun calendrier précis de retrait n'a cependant été annoncé après ces discussions menées sous l'égide du Sénégalais Abdoulaye Bathily, l'émissaire de l'ONU pour la Libye. L'Algérie a rappelé mercredi pour consultation son ambassadeur en France pour protester contre ce qu'elle appelle l'exfiltration illégale via la Tunisie de la militante franco-algérienne Amira Barrouhi, une affaire qui risque de raviver les tensions bilatérales après une phase récente de réchauffement. Arrêtée vendredi en Tunisie, d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, la militante politique et journaliste Amira Barrouhi a finalement pu embarquer lundi soir sur un vol à destination de la France.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé demande le rétablissement d'urgence des services essentiels en Turquie et en Syrie voisine, craignant une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que les séismes eux-mêmes. Le dernier bilan fait état de plus de 16 000 morts dans les deux pays. Le point avec Abdulrahman Dia.
Lors d'une conférence de presse à Genève, Robert Holden, en charge de la réponse au séisme à l'OMS, a expliqué que l'objectif immédiat était de sauver des vies. Mais pour lui, il est aussi impératif de s'assurer que ceux qui ont survécu à la catastrophe continuent de survivre. Nous sommes clairement préoccupés par le fait qu'une crise sanitaire secondaire n'émerge qui va exacerber les risques sanitaires déjà existants dans la région, a ajouté la docteure Adelaide Marchand, une autre responsable des urgences à l'OMS. Dans le cas de la Syrie, les autorités craignent surtout des maladies diarrhéiques telles que le choléra, mais également des maladies respiratoires et des traumatismes psychologiques et physiques, a insisté Mme Marchand. Par ailleurs, l'Union européenne va organiser début mars une conférence des donateurs pour mobiliser des fonds internationaux afin d'aider la Turquie et la Syrie, a annoncé ce mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Mercredi, le gouvernement syrien a officiellement sollicité l'assistance de l'Union européenne.
Londres a dit hier que rien n'est exclu concernant la fourniture d'armements à l'Ukraine, y compris des avions de chasse réclamés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a confirmé qu'il va rencontrer ce jeudi des dirigeants européens. Le point avec Jacques Aristide.
Le Royaume-Uni est clair depuis longtemps sur le fait que pour ce qui est d'apporter une aide militaire à l'Ukraine, rien n'est exclu et des livraisons d'avions font bien sûr partie de nos discussions, a dit le chef du gouvernement britannique. Rishi Sunak s'exprimait au cours d'une conférence de presse sur un site dans le sud de l'Angleterre où des soldats ukrainiens sont formés au maniement de chars Challenger 2 britanniques promis à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a quant à lui affirmé qu'il allait discuter de ces sujets avec des dirigeants de l'Union européenne aujourd'hui, de même que des missiles de longue portée. Il s'est rendu hier soir à Paris pour rencontrer le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. L'ambassade de Russie au Royaume-Uni a averti qu'il y aurait une réponse à toute mesure hostile si Londres se décidait à envoyer des avions de combat à l'Ukraine. Moscou a brandi la menace d'une moisson sanglante avec des conséquences militaires et politiques pour le continent européen et le monde entier.
Au Canada, un homme a volontairement percuté avec son bus une garderie près de Montréal mercredi, tuant deux jeunes enfants de 4 ans et en blessant 6 autres qui ont été hospitalisés. On ignore le mobile de son crime. Le chauffeur de 51 ans a été arrêté peu après les faits. La Minute Éco, Mohamedou Humpa.
Au Cameroun, les tarifs du transport urbain devraient connaître une augmentation de 50 francs CFA. Décision prise au cours d'une concertation organisée le 7 février 2023 à Yaoundé entre le gouvernement et les syndicalistes du secteur des transports routiers. Selon investirocameroun.com, le gouvernement camerounais accède ainsi partiellement aux revendications des transporteurs au lendemain de la hausse des prix de carburant effective depuis le 1er février 2023. Le groupe français Société Générale a rendu public le 8 février ses résultats annuels qui montrent une nette progression de ses activités en Afrique. Le pôle Banque de détail et services financiers internationaux en Afrique affiche un produit net bancaire de 1,8 milliard d'euros sur l'année contre 1,5 milliard en 2021, soit une progression de plus 8,7% selon les 10 résultats détaillés par Jeune Afrique. En 2022, 4 des 5 majeures pétrolières, Shell, Chevron, ExxonMobil, Total Energy, ont battu leur record de bénéfices nets, engrangeant 151 milliards de dollars de bénéfices nets, selon l'AFP. Les compagnies ont bénéficié à plein de l'escalade des cours des hydrocarbures, avec un baril de Brent, référence de l'or noir, frôlant les 140 dollars en mars 2022 et un gaz à 350 euros le mégawatt-heure l'été dernier en Europe, 15 fois le prix habituel.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La finale du Mondial des clubs va opposer le Real Madrid à Al-Hilal.
Oui, en demi-finale hier mercredi, le Real Madrid a souffert pour écarter le club égyptien d'Al-Ahly. 4-1 à Rabat pour se qualifier pour la finale. Les Espagnols vont viser une 5e couronne mondiale face aux Saoudiens d'Al-Hilal, surprenant tombeur des Brésiliens du Flamengo mardi en demi-finale. Les Madrilènes tenteront d'effacer samedi en finale leur début d'année 2023 mitigé avec une défaite en Supercoupe d'Espagne mi-janvier et plusieurs contre-performances en championnat, deuxième de la Liga. Le Real a déjà 8 longueurs de retard sur le leader, le FC Barcelone.
Le portier du Maroc, Yacine Bounou, parmi les nommés pour le prix du meilleur gardien.
Le gardien des Lions, de l'Atlas et du FC Séville, le champion du monde argentin Emiliano Martinez et le Belge Thibaut Courtois prétendent au prix du meilleur gardien. Yacine Bounou a été l'un des héros du Maroc, premier pays africain qualifié pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Martinez s'est distingué lors de ce Mondial 2022 au Qatar en stoppant notamment 2 tirs au but en finale face à la France. Si la Belgique a raté son Mondial, éliminé dès le premier tour, Courtois a lui été l'un des artisans du 14e sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Comme pour les autres prix FIFA, les lauréats sont déterminés par un jury international composé des sélectionneurs actuels de toutes les équipes nationales féminines et masculines, de leur capitaine et d'un journaliste spécialisé de chaque pays représenté par une équipe nationale. Le grand public peut aussi voter sur le site FIFA.com. Les trophées seront remis lors des FIFA Best le 27 février à Paris, selon l'annonce faite par la Fédération internationale de football.
Athlétisme, Goudaf Segaï, deuxième de tous les temps sur le 1000 en salle.
L'Éthiopienne championne du monde du 5000 mètres a établi mercredi la deuxième performance de tous les temps sur 1609 mètres en salle lors du meeting de Touron en Pologne. Goudaf Segaï, 25 ans, déjà recordwoman du monde du 1500 mètres en salle depuis 2021, s'est attaqué au record du monde de sa compatriote Genzebe Dibaba, 4 minutes 13 secondes. Elle est restée assez loin, mais a tout de même établi le deuxième meilleur chrono de l'histoire en 4 minutes 16 secondes. La Britannique Kelly Hodgkinson a réussi la meilleure performance mondiale de l'année en 1 minute 57 secondes sur 800 mètres, comme le champion olympique grec Miltiadis et Doglou au saut en longueur 8,40 mètres.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebouya, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, depuis 2015, les violences djihadistes ont fait 2 millions de déplacés et des milliers de morts. Les violences n'ont cessé de se multiplier ces derniers mois, notamment dans l'Est, qui partage des frontières avec le Bénin, le Togo et le Ghana. Dans la zone frontalière de Boku, dans le nord du Ghana, les villageois craignent l'avenir. Avec un accès rapide aux pays voisins, leur frontière est très exposée. En décembre, Bitou, un village burkinabé situé à 45 minutes du Ghana, a été frappé par une attaque djihadiste qui a fait 6 morts. Davantage avec Gabig Dorsil.
À Borku, au Ghana, Alima scrute l'horizon. À moins de 2 km de l'autre côté de la frontière se trouve son village, Burkina Faso. Elle ne peut plus rentrer chez elle. L'année dernière, des djihadistes ont débarqué, semant la terreur. Avec ses fils, elle s'est cachée, avec les femmes et les enfants, pendant les coups de feu nocturnes. 2 hommes ont été tués. Au lendemain, tout le monde a dû s'enfuir.
C'est mon pays, mais maintenant, là, nous, on a peur du Burkina. Burkina n'est plus bon. Non. Burkina. Ah, on tue les gens comme des poulets maintenant. Burkina n'est plus bon. Avant, il y a Bitou, 5 personnes. Ils sont venus les tuer. Rien n'est. C'est à cause de ça que nous, on a eu peur à Burkina pour revenir au Ghana.
Comme beaucoup d'autres réfugiés, Alima craint désormais que les djihadistes traversent la frontière pour s'attaquer au Ghana.
Bien sûr que nous avons eu peur. Tu vas te coucher et tu ne vas pas fermer l'œil parce que lorsque tu penses à ce qui s'est passé, tu as peur et l'angoisse monte. Tu as peur. La peur mène à l'anxiété.
L'arrivée de réfugiés burkinabés a confirmé ce qu'Accra savait déjà. Le Ghana et ses voisins du golfe de Guinée sont en passe de devenir une nouvelle ligne de front du conflit djihadiste au Sahel. Jusque-là épargné, le Ghana craint un débordement djihadiste venu du Sahel.
Oui, c'est une menace réelle parce que les gens voient des gens fuir le Burkina Faso vers le Ghana et bien sûr, on leur dit pourquoi ils ont fui et donc les gens se demandent est-ce que cela va aussi arriver au Ghana. C'est ça qui préoccupe vraiment les gens.
Les inquiétudes du Ghana sont justifiées puisque les voisins, ivoiriens d'abord, et puis togolais et béninois, font face au débordement des violences de groupes armés se dirigeant désormais vers le sud. Cotonou dit avoir enregistré plus de 20 incursions armées depuis 2021. Pour l'heure, le Ghana a choisi de renforcer la présence militaire et de sensibiliser les communautés pour apaiser les tensions et soutenir les populations locales.
En RDC, certains politiciens se positionnent pour les élections présidentielles et législatives de décembre. Stéphanie Mombo, présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo affilié à l'UDPS au pouvoir, se lance dans la course législative avec le défi de réunir 50% de femmes candidates sur la liste du parti. Jointe par Nathalie Barge, elle explique son parcours et sa stratégie de campagne.
J'ai commencé la politique jeune, j'avais 18 ans, j'ai toujours voulu être politicienne. J'ai été membre d'un parti politique, le MLC. J'ai choisi ce parti de Jean-Pierre parce qu'il prônait le libéralisme, l'économie. Mais quand je me suis engagée, j'ai remarqué que le voix des jeunes n'était pas respectée. Les femmes, on les appelait pour distribuer des polos de nourriture quand il y avait des activités. Alors j'ai laissé le parti et je m'étais dit que je vais créer mon propre parti avec une idéologie, avec un programme que je vais me battre pour le voir venir.
Vous avez un pourcentage de femmes qui ont adhéré à votre parti?
c'est 30-70 par rapport aux hommes. Les hommes sont plus nombreux. L'autre partie est installée dans plus de 17 provinces au Congo. Et je demande à tous les fédéraux d'envoyer des listes de candidats potentiels pour la législative, mais que ce soit 50% des femmes. S'il n'y a pas de femmes, qu'ils recrutent des femmes qui sont connues, qui se démarquent dans les ONG, dans les mouvements associatifs, pour qu'elles soient candidates de notre parti. Dans la liste que notre parti va déposer au Parlement, il y aura 151 femmes. Pour être éligible en tant que parti, le seuil, il faut remettre une liste qui a 60% de nombre de parlementaires exigés. Le nombre de parlementaires au Congo, c'est 500 parlementaires. Donc, pour déposer une liste, il faut payer la caution pour 300 candidats. Alors, moi, j'aimerais que dans ces 300, qu'on ait 150 femmes. Non pas seulement parce que c'est la parité, mais aussi nous aurons un avantage parce que la loi prévoit que si dans une liste électorale, il y a plus de 150 femmes, le parti politique sera exempté de payer une caution. Parce que la caution, c'est 1 000 $ par candidat. Je dois payer 300 000 $. Parce que si je mets 150 femmes, je ne vais rien payer. C'est vraiment l'avantage que l'État congolais a mis pour nous, les femmes, pour que nous puissions participer massivement aux élections.
On parle beaucoup de ces femmes qui travaillent dans l'informel, qui sont sur les marchés, des petites commerçantes. Comment pouvoir leur permettre de vraiment créer une entreprise qui va dégager un bénéfice?
Je reçois des femmes commerçantes qui vont acheter le poisson salé en Espagne ou au Portugal, qui ramènent ça à Kinshasa, qui sont butées par un problème de douane très élevé aussi. Ça aussi, c'est un problème. La douane au Congo, c'est la plus chère au monde. Et pourquoi on doit avoir les douanes aussi élevées? Nous-mêmes, nous tuons notre propre système d'entrepreneuriat si nous n'allons pas assainir cette problématique des douanes et des systèmes fiscaux.
Des dames qui, en République démocratique du Congo, importent du poisson d'Espagne avec tous les cours d'eau et les lacs qu'on a en RDC.
C'est un manque à gagner énorme. Si nous disons que nous avons le lac Tanganyika chez nous, qui est le lac le plus poissonné au monde, et les poissons meurent de gelée, même si on continue à les acheter ailleurs. Vraiment, on fait beaucoup d'efforts, notamment pour draguer le fleuve Congo, parce qu'il y a aussi une autre région comme la province de l'Équateur qui a beaucoup de poissons, beaucoup de vivres frais, mais on ne peut pas les acheminer facilement à Kinshasa à cause du fait que le fleuve n'est pas bien dragué. On va y arriver avec un peu de volonté et surtout l'assainissement du milieu des affaires au Congo. Ça permettra vraiment à ce que le Congolais puisse transformer et consommer local.
Stéphanie Mbombo, présidente du parti politique CRIC en RDC.
Le Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Les camions électriques passent à la vitesse supérieure au Rwanda 2 ans après le lancement d'un projet pilote dans les zones rurales du pays. La flotte diminue les coûts d'opération et a un impact moindre sur l'environnement. La société britannique Ox Delivers prévoit d'introduire de nouveaux modèles cette année et espère se développer davantage en Afrique de l'Est. De Kigali, un reportage de Sena Noutord, le récit est de Jacques Aristide.
L'Ox 1 est le deuxième modèle de camions électriques qui a été mis à l'essai sur les routes de campagne du Rwanda. Le moyen de transport utilisé pour acheminer des produits des fermes vers les marchés s'est avéré plus propre et moins cher. D'après Oxtuma, l'entreprise locale qui gère ces véhicules britanniques, les camions effectuent jusqu'à 120 livraisons par semaine, alors que les frais de transport ont été réduits par environ 15% par rapport à ceux roulant au carburant. Pour des agriculteurs comme Danny Cuisera, il s'agit d'une nouvelle donne au niveau des livraisons.
La concurrence s'est accrue et les gens n'avaient pas le pouvoir de négociation.
Selon la Banque mondiale, seulement la moitié des habitants de l'Afrique subsaharienne ont l'électricité, alors que dans les campagnes, 70% sont sans courant. Ainsi, les véhicules électriques dans les régions rurales du continent doivent pouvoir parcourir de longues distances avant d'être rechargés. Innocent Bonagaba, chef mécanicien chez Oxtuma, fait part de l'arrivée de nouveaux modèles mieux adaptés aux routes et aux réseaux électriques africains.
For example, battery range.
Cette batterie permet de faire plus de 100 km. Les prochaines vont permettre de parcourir jusqu'à 300 km sans recharge. Nous voyons aussi comment fonctionne la suspension, le châssis et les autres pièces mécaniques, même sur nos mauvaises routes.
Le Rwanda se tourne vers une agriculture entièrement biologique. Le pays offre des incitations fiscales qui ont attiré les promoteurs de véhicules électriques. Ampersand, une compagnie de motos électriques, affirme que les chauffeurs de mototaxis arrivent à faire davantage de profits, de même que des économies pour ce qui est du carburant et des réparations. Brady Grimes est le directeur des opérations de l'entreprise.
So Rwanda has really set up the model for what building the EV industry could look like in the region.
Le Rwanda a vraiment mis en place le modèle de ce à quoi pourrait ressembler l'industrie des véhicules électriques dans la région. Je pense que beaucoup d'autres pays ont vu les résultats et les progrès que nous avons réalisés, des choses qu'ils voudraient reproduire. Ainsi, alors que le Rwanda a pris les devants depuis si longtemps avec les incitations et les politiques autour du transport électrique, nous voyons d'autres pays de la région lui emboîter le pas rapidement.
Ferdinand Mounezero, le directeur des opérations d'Oxtouma, reconnaît que pour l'heure, la flotte de sa compagnie n'est pas tout à fait prête à opérer ailleurs en Afrique.
Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous développer, mais nous ne pouvons pas nous développer tant que nous n'aurons pas optimisé le marché disponible au Rwanda. Nous avons encore des gens qui passent la nuit sur les routes. Nous avons quelques véhicules et nous prévoyons d'augmenter le nombre. Une fois le marché rwandais complété, nous pourrons alors aller dans d'autres pays.
Oxtouma prévoit également d'équiper leurs camions électriques de moyens frigorifiques pour mieux transporter les produits frais sur de longues distances.
Basket pour terminer, LeBron James a jamais dans l'histoire de la NBA. Le joueur des Los Angeles Lakers est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA devant le légendaire Kareem Abdul-Jabbar. Avec 38 390 points inscrits, il détient désormais le record individuel le plus prestigieux du basket américain. Yakuba Ouedraogo.
Ses bras levés, après avoir battu le record de points NBA, était autant ceux du soulagement que de la gloire. Ce shoot de l'histoire, LeBron James, l'a inspiré en se retournant à la fin du troisième quart-temps contre Oklahoma City. Ce tir a soudainement fait arrêter le match des Los Angeles Lakers, comme le souffle des quelques 20 000 fans dans une Crypto.com Arena en fusion. King James porte ainsi son total de points en carrière à 38 390, soit 3 de plus que le précédent record de Kareem Abdul-Jabbar.
Quand ce tir est rentré et le rugissement de la foule, je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir à nouveau ce sentiment.
Parmi les témoins de l'histoire, des fortunés ayant payé jusqu'à 24 000 $ le siège, le légendaire Kareem Abdul-Jabbar en personne, Magic Johnson, des célébrités comme le rappeur Jay-Z et le chanteur Usher.
C'est à cela que ressemble l'histoire des Noirs. Nous étions là, nous sommes venus, nous avons vu, il a conquis.
À la question de savoir si King James était venu ce soir du mardi 7 février pour marquer l'histoire, la réponse est sans équivoque.
Eh bien oui, parce que mes garçons partent à Red Eyes demain soir. Et donc oui, j'ai juste eu l'état d'esprit et je me suis habillé pour l'occasion. J'ai mis le bandeau car c'est là que le voyage a commencé et j'aurais dû payer une chambre d'hôtel pour une autre nuit pour les garçons si je ne l'avais pas fait ce soir.
À 38
ans, James ne montre aucun signe de ralentissement au cours de sa 20e saison à NBA. Il affiche une moyenne de plus de 30 points par match et a été sélectionné 19 fois pour les All-Star Games. Il a remporté 4 titres NBA, 4 prix du meilleur joueur de la NBA et 2 médailles d'or olympiques. Même ses propres coéquipiers sont mystifiés. Anthony Davis, attaquant des Lakers.
C'est formidable, il a joué un rôle important dans le succès de notre équipe, dans mon succès. Il a été un leader dans tous les domaines, sur et en dehors du terrain. C'est vraiment bien mérité. Il a mis beaucoup de sang, de sueur et de larmes dans ce jeu. Je suis donc honoré de pouvoir être le témoin en direct.
Si la grandeur de James sur le terrain est définie par les statistiques, on se souviendra peut-être davantage de lui pour son travail en dehors des parquets. Il a utilisé sa notoriété pour s'exprimer sur le racisme, les droits civiques des Noirs et la brutalité policière et a consacré de l'argent et du temps à un certain nombre de causes caritatives.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebulia, à la mise en onde de Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.